Bonsoir. Moi, j'interviens le bonsoir sur le bon sujet. Hein, l'intitulé exact, c'était de Olympe de Gouges à Louise Michel, naissance du féminisme. Ça veut dire qu'on n'ira pas jusqu'au bout. Hein, aujourd'hui, dans cette première conférence de ce qui est devenu le mouvement féministe, hein, puisque Louise Michel est morte en 1905. Et autre précision, on ne parlera pas que de ces deux personnages qui sont, j'ai envie de dire, dans la symbolique aujourd'hui les plus connus, mais il y a derrière énormément de femmes et d'hommes, et on les présentera, qui ont mené, j'ai envie de dire, le combat l'idée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors bien sûr, comme toutes les conférences, il y a une bibliographie. Alors, je n'ai pas tout amené parce que j'avais qu'un petit sac ce soir. Je vous conseille quand même, si vous voulez savoir beaucoup de choses sur Louise Michel, La Vierge Rouge. Hein, je vous ferai passer le livre de Xavier Gauthier qui est, j'ai envie de dire, la personne qui a le plus écrit hein, sur Louise Michel. Si vous voulez en savoir plus sur la Commune de Paris en elle-même, Au temps des cerises vient de sortir La Commune de Paris telle qu'en elle-même, de René Bidouze, hein, qui est un ouvrage récent, hein, qui est édité effectivement Au temps des cerises et qui est, je veux dire, très bien fait, très récapitulatif de l'ensemble des mesures et de l'ambiance de la Commune de Paris. J'ai pas ramené de livre sur la Révolution française, mais il en existe, hein, sur les quatre personnages que je vais présenter ce soir, qui ont particulièrement compté dans la Révolution française, que ça soit Olympe de Gouges, Condorcet, avec le livre de Catherine Kinsler, qu'il faut lire et avoir lu, et sur les deux autres personnages qui, pour moi, sont dans l'image de ce qu'était et de ce qu'a été le mouvement féministe à l'époque. Ils sont Thérouanne, que vous connaissez peut-être pas, qui est un petit peu l'activiste du mouvement et qu'on présentera tout à l'heure. Et puis, peut-être encore moins connu hein, que les trois autres, qui n'est pas directement une révolutionnaire puisque c'est une anglaise, mais en même temps elle compte beaucoup dans l'histoire du mouvement anglais féministe. Alors je vais reprendre mes notes parce qu'elle a un nom, moi je suis pas de formation angliciste, donc j'ai toujours du mal, Wollstonecraft. Donc, je ne le prononcerai pas souvent. Son petit nom, c'est Marie. Hein, ça m'aidera à vous la présenter. Mais elle est venue à Paris durant la Révolution française. Elle a soutenu la Révolution française et elle a aussi soutenu la question de l'égalité homme-femme. Et c'est un personnage, si on veut comprendre le mouvement féministe et pourquoi aussi, en dehors de la France, il y a eu des avancées sur ces questions-là. Après la Révolution française, il faut aussi un petit peu ouvrir. Le premier point, je veux dire, dans mon plan, c'est d'abord de rappeler que les idées ne naissent pas de rien. La Révolution française, c'est, comme on le dit, j'ai presque envie de dire à chaque conférence, le fruit d'un mouvement philosophique qui s'appelle le mouvement des Lumières. Mais en même temps, ce mouvement-là, il n'est pas lui non plus de rien. Hein, et on a, je veux dire, comme grands ancêtres, les philosophes grecs, qui ont nourri pendant longtemps ces philosophes des Lumières. Il y a quand même une grande dominante, que ce soit chez les philosophes des Lumières ou chez les philosophes grecs, c'est que depuis le début, l'histoire de l'humanité s'est construite sur une hiérarchie patriarcale. Il y a une différence entre les hommes et les femmes, et les trois philosophes les plus connus de la période grecque, Platon, Aristote et Socrate, n'avaient pas une image de la femme qui donnait à penser ou laissait à penser qu'il y avait une égalité. Pour Platon, et pour aller vite, en mâle et femelle, comme les nombres pairs et impairs, il y a une différence. Et en plus, il justifie et explique que non seulement il y a une différence, mais qu'en plus, ils ne sont pas équivalents. Hein, c'est dans Le Banquet qu'il explique ça. Aristote, lui, a justifié en expliquant qu'il y avait une impuissance et que le père, quand il donnait naissance par sa semence à une femme, c'était un échec, et que la réussite, c'était quand il donnait naissance à un être masculin. Ça, c'est Aristote. Quant à Socrate, il a expliqué que les femmes avaient des connaissances naturelles et innées, alors que les hommes, eux avaient la possibilité, par l'instruction, de se cultiver et de s'émanciper. Donc c'est pour vous rappeler quand même que c'est ancien, l'idée de la domination et de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas quelque chose de récent, ce n'est pas quelque chose de moderne, c'est presque envie de dire, c'est inhérent à l'ensemble des sociétés. Là, je donne des exemples que sur, j'ai envie de dire, l'Europe, mais on pourrait aller bien au-delà sur la quasi-totalité des structures qui existent dans le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, etc. Je vous lirai du Confucius à un autre moment. C'est souvent à la mode. Franchement, pour les femmes, ce n'est pas forcément ce qu'il faut comme référence. Donc, on est quand même dans une histoire longue qui fait qu'au moment de l'Ancien Régime, on a effectivement une structure, la monarchie, qui justifie par ses codes l'inégalité homme-femme et qui s'appuie pour cela sur la loi salique en France, et sur l'Église, parce que c'est les deux grands arguments qui ont été avancés pendant toute la période historique jusqu'à la Révolution, que l'idée de l'inégalité de l'homme et de la femme. La première, c'est sur la base, j'ai envie de dire, culturelle, religieuse, l'idée que la femme doit se soumettre à Dieu et que sur Terre, sa soumission à Dieu est une soumission à l'homme. C'est dans la tradition, etc. Et puis l'autre élément, c'est ce qu'on voit apparaître chez les philosophes grecs, c'est l'idée qu'il y a une inégalité de savoir, de prise en compte de la connaissance. L'homme sait et peut apprendre, la femme ne peut pas apprendre. Et là, il y a une volonté de la part d'un certain nombre d'hommes de lettres de justifier par cette inégalité cela. Alors évidemment, comme dans toutes les périodes, il y a toujours des personnages, on veut dire, un peu à part. Il y a notamment la première féministe, si on veut la citer, hein, qui explique, elle, que si la coutume était de mettre les petites filles à l'école, elles apprendraient aussi parfaitement. C'est Christine de Pisan qui a écrit ça en 1405. Donc ça date un petit peu, hein, mais on s'aperçoit que cette personne, qui est la première femme de lettres qui a vécu de sa plume, qui était très largement, j'allais dire, plus cultivée que ses contemporains, était quand même l'exception qui confirmait la règle à l'époque. Et j'ai envie de dire, il faut attendre Montaigne. Et surtout, Marie de Cournet, qui en 1622, d'abord, c'est ce qu'on appelle, enfin, elle a été souvent reconnue dans l'histoire comme la fille d'alliance de Montaigne. C'est elle qui a publié la troisième édition des essais en ayant augmenté de toutes les corrections manuscrites du philosophe. C'est elle qui a reçu en legs à la mort de Montaigne sa bibliothèque, que lui-même avait reçue de la Boétie, donc c'est pas un personnage à part. Et c'est elle qui commence dans ses écrits, et elle a beaucoup écrit, à justifier et à expliquer que par l'éducation, on prouvera, en offrant de l'éducation aux jeunes filles, qu'il n'y a pas d'inégalité à concevoir, prévoir et apprendre. Hein, et c'est vraiment un personnage important. Elle dit « La notion d'égalité doit supplanter le jeu rhétorique entre la supériorité et l'infériorité d'un sexe à l'autre. » C'est l'un des personnages importants. Alors évidemment, comme tous ces personnages, pour les décrier, le premier argument souvent avancé par ceux qui ont le pouvoir, donc on va résumer ça à cette étape par les hommes, c'est d'abord de les caricaturer. Cette dame-là ne s'est jamais mariée. Elle vivait avec beaucoup de chats. Et elle accueillait toute la misère du monde. Donc vous voyez ce qu'on peut après en faire, en expliquant que, bon, franchement, c'était quelqu'un qui était, voilà, qui n'avait plus à personne, qui n'avait pas pu se marier, donc de toute façon, on ne pouvait pas l'écouter, elle n'était pas raisonnable. En attendant, dans le mouvement littéraire, on s'aperçoit que c'est des personnages qui ont survécu et qu'un certain nombre de personnes les découvrent. Hein. Et donc, au moment de la philosophie des Lumières, il y a trois grands courants dans la philosophie des Lumières qui sont caractérisés par un certain nombre de personnages. Il y a d'abord les antiféministes sans complexe. On finira par eux. Hein. Il y a ensuite ce qu'on va appeler, nous, ceux qui s'interrogent et qui interrogent. C'est la catégorie de ceux qui sont les plus nombreux, peut-être les plus connus, Voltaire, Diderot, Montesquieu, pensent qu'il y a quand même une inégalité, mais qui ont du mal à justifier que les personnes qui sont chargées d'élever leurs enfants pour leur transmettre un savoir. Pour quelles raisons celles-ci seraient donc tenues de ne pas connaître et de ne pas être en capacité de savoir? Et donc, chez ces philosophes-là, on va s'apercevoir qu'ils vont régler le problème en séparant l'espace public et l'espace privé. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent l'idée que les femmes peuvent acquérir des savoirs, apprendre à lire, apprendre à écrire, etc., mais que, en définitive, dans l'espace public, c'est l'homme qui doit faire la loi et que la femme a une place réservée dans l'espace privé. Ensuite, il y a ceux qu'on va appeler les féministes au masculin, ça c'est une expression de Benoît de Groux. On va retrouver dans cette catégorie Condorcet, mais avant lui, Poulain de la Barre, hein, dans son traité de l'égalité des sexes, qu'il publie en 1673, donc ça date déjà, affirme que l'idée de l'infériorité féminine est un préjugé du même ordre que celui qui fait voir le soleil tourner autour de la terre. C'est l'un des textes les plus importants. Et puis on va revenir évidemment à ceux qu'on a définis comme étant les antiféministes sans complexe, parce que c'est un peu eux qui vont, j'ai envie de dire, remporter la bataille idéologique pendant la Révolution française, c'est Rousseau. Et c'est l'ennemi de Rousseau. Alors là, je vais prendre le temps de vous lire ce que pense Rousseau de la femme, parce que c'est important. C'est un philosophe, on le récite, on l'apprend à l'école, c'est une de nos références. Et personne ne peut dire dans un bout de lui-même qu'il n'a pas une part qui le rapproche de la philosophie de Rousseau. Et puis, bon, Rousseau pour les femmes. Je cite, hein, « Plaire aux hommes, leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner grands, les consoler, les conseiller, leur rendre la vie agréable et douce, voilà les devoirs des femmes dans tous les temps. » Et ce qu'on doit leur apprendre depuis l'enfance. C'est le livre 5 de l'Émile. Alors évidemment, il a quelques échanges avec des gens comme d'Alembert qui lui disent « Oui, mais quand même, il t'arrive de rencontrer des gens cultivés. » À cette époque, il y a des personnages comme Émilie du Châtelet qui sont, il faut le savoir, non seulement la maîtresse de Voltaire, mais c'est surtout parce qu'on réduit souvent la femme à ce qu'elle a pu être, ou son père, ou son mari, c'est surtout une grande mathématicienne, et celle qui a traduit Newton en France. Alors je voudrais quand même qu'on replace les gens où ils étaient. Et bien, il dit, oui, il y a bien sûr des femmes, hein, il répond à d'Alembert, il y a bien sûr des femmes qui sont cultivées, mais quand même, toute femme qui se montre se déshonore.
Excuse-moi,
toute femme qui se montre se déshonore. Ça, c'est dans une lettre qu'il envoie à d'Alembert. Et de finir, ce n'est pas une femme, mais aux femmes qu'il refuse le talent des hommes. Hein? Et il faut bien comprendre que pendant la Révolution française, ces courants, hein, des Lumières, se sont aussi confrontés au travers des personnages et des hommes qui l'ont porté. Il y a par exemple un proche de Babeuf, et on y reviendra peut-être, le vilain, qui avait proposé en 1802 une proposition de loi pour interdire le droit aux femmes d'apprendre à lire et à écrire. Et c'était pourtant un proche de Babeuf, un athée, c'est dans la lignée des philosophes et politiques athées, mais sur cette question, voilà. Donc quand on regarde la philosophie des Lumières, comme quand on regarde quelque chose, l'idée, c'est pas de prendre en bloc un personnage en disant il est tout bon ou il est tout mauvais. C'est bien de comprendre que sur beaucoup de sujets, il est difficile de classer par avance tout le monde et dire voici ceux qui sont pour l'égalité, voici ceux qui sont pour. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, dedans, il n'y aura pas tout ça. Donc voilà. Donc pendant la Révolution française, il y a en fait peu de personnages qui défendent l'idée de l'égalité homme-femme. Il y en a un qui est oublié, qui est souvent dénigré, souvent classé dans la catégorie des opposants. C'est à l'égalité homme-femme, c'est Robespierre. Pourtant, Robespierre s'est prononcé dans plusieurs discours à l'Assemblée pour le droit de vote des femmes. Ce qui, évidemment, quand vous lirez dans un certain nombre de livres, etc., ne ressortira pas. Hein, forcément. Il était sur cette question-là plus ouvert que d'autres, mais très minoritaire. En attendant, les deux personnages qui ont marqué la Révolution française dans l'idée et qui a vraiment changé, j'ai envie de dire, dans ce que nous, on appelle la fondation du féminisme. Hein, pour faire une différence, avant, la revendication des femmes, c'est la revendication de liberté, le droit de faire ce qu'on veut de son corps. Beaucoup étaient d'ailleurs des courtisanes, des dames qui tenaient salon, parce que dans l'Ancien Régime, le bonheur, c'était pas d'être fille, c'était pas d'être mariée, c'était d'être veuve. Et oui, parce que veuve, on avait enfin le temps de pouvoir faire ce qu'on veut, de pouvoir recevoir qui on voulait, sans devoir avoir quelqu'un qui vous autorise à recevoir un homme. Donc, oui, bien sûr, là on parle évidemment de ceux qui sont les grands bourgeois ou les nobles. Hein. Alors pas toujours riches. Tout à fait. C'est-à-dire le grand mouvement, si on veut bien comprendre, avant la Révolution française, il y a une chose qui est importante, c'est le mouvement des salons. Alors, je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir, mais il y a eu depuis le XVIIe siècle, et jusqu'au 18e, ça prend fin vers 1840, je crois, les derniers. Mais vraiment, c'est le début, c'est le 17e, et la grande phase, c'est le 18e. Il y a énormément de salons qui sont les lieux d'expression où un certain nombre de femmes reçoivent les intellectuels, montent des pièces de théâtre, etc. Donc, c'est des lieux dits littéraires, de plus en plus politiques, et quand on va approcher de la Révolution française, complètement politique. Hein. La femme de Condorcet tenait salon, Madame Roland tenait salon, Madame de Staël tenait salon, etc., etc. Donc c'était vraiment très très important. Il y avait même, il faut le savoir, pendant la Révolution française, des salons tenus par des femmes qui défendaient la royauté, qui défendaient et organisaient des plans d'évasion pour la famille royale, etc. Et les lieux d'expression de l'opposition se sont maintenus quasiment pendant toute la Révolution française au sein des salons jusqu'en 1793-1794. Alors, quand on est à la Révolution française, il y a deux personnages que je disais qui ont vraiment compté sur le droit des femmes, c'est Condorcet et c'est Olympe de Gouges. Pourquoi ? Parce que, effectivement, ils ne sont pas que dans la revendication ou l'explication de la femme a le droit de disposer de son corps, la femme a le droit de divorcer, la femme a le droit de vivre, etc. Mais ils portent deux autres revendications. L'une, c'est l'égalité portée par Olympe de Gouges. Et la deuxième, qui est particulièrement portée par Condorcet, si on veut les séparer, c'est la question de la mixité. C'est deux éléments importants parce que si on veut bien replacer ces questions aujourd'hui, que ce soit la question de l'égalité ou que ce soit la question de la mixité, d'abord pour beaucoup elles ne sont arrivées dans un certain nombre de pays qu'au XXe siècle, de plein droit, et elles sont aujourd'hui sujets à caution, sujets à débat. Olympe de Gouges, c'est d'abord quelqu'un qui est né à Montauban, qui ne s'appelle pas en vérité Olympe de Gouges, qui prend en fait ce nom-là en arrivant à Paris. Avant, elle est la fille, dit-on, de Monsieur de Gouges et de sa mère, mais en même temps, d'autres historiens disent qu'elle est la fille naturelle du châtelain du coin. Donc on a là-dessus, on ne sait pas s'il y a une fille naturelle ou pas. Elle a toujours revendiqué d'être la fille de ce châtelain et lui ne l'a jamais reconnue. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est plutôt élevée dans un milieu bourgeois sans excès, mais elle a quand même appris un certain nombre de choses, mais en même temps peu de choses. Quand elle arrive à Paris, elle parle surtout occitan. Il ne faut jamais oublier la France de 1788, puisqu'elle arrive en 1788 sur Paris. On ne parle pas un peu le français, et pas partout. Elle ne sait quasiment pas écrire. Et d'ailleurs, pendant toute sa vie, ses œuvres, elle les dictera. Elle n'écrira pas directement. Hein, autant elle aura appris assez vite le français, mais elle dictera ses œuvres, elle ne les écrira pas directement, elle maîtrisait mal l'écrit. Et beaucoup de femmes de cette époque, hein, même dans les milieux aisés, ne maîtrisaient pas l'écrit et la lecture. Hein. C'est important de se rendre compte un peu de ça. Alors, Olympe de Gouges, quand elle arrive à Paris, en fait, elle s'en va de chez son mari. Elle a été mariée à 17 ans. Elle a eu un fils avec son mari. Elle prend son gamin sous le bras. La biographie dit qu'elle s'ennuyait dans son mariage. Ça, moi, je ne suis pas capable d'en juger. Mais en tout cas, elle avait envie d'autre chose. Et on est quand même dans une période où les idées révolutionnaires se développent, y compris dans les villes de province. Donc elle vient à Paris et elle commence à écrire sous le nom d'Olympe de Gouges et à se faire connaître et elle aussi à être invitée dans les salons d'un certain nombre de personnes et d'être reconnue. C'est d'abord quelqu'un qui écrit des pièces de théâtre. Dans ces pièces de théâtre, il y a... Dans ses premières pièces de théâtre, une pièce de théâtre qui sera écrite en 90, qui ne sera en fait présentée pour la première fois qu'en 1792, c'est une pièce de théâtre contre la traite et l'esclavage des Noirs. Et s'il y a une correspondance ou une concordance entre Condorcet et Olympe de Gouges supplémentaire, c'est le fait que tous les deux se battront pour l'abolition de l'esclavage. Tous les deux vont considérer que l'égalité de l'homme, des hommes, c'est une égalité et une bataille pour l'égalité de tous les citoyens, des deux sexes et de toutes couleurs. Ça, c'est important à comprendre parce que c'est vraiment une minorité. Certes, au début de la Révolution, on verra que l'esclavage sera aboli, mais on sait que cette période-là est, on va dire... Définitivement entre guillemets sur la période tournée au moment de l'arrivée de Napoléon et surtout de la demande de sa femme de Beauharnais qui demande effectivement ce qu'on rétablisse l'esclavage. Mais pendant toute la période de la Révolution, les courants contre l'abolition de l'esclavage ont existé et ont perduré. Hein, c'est pas simplement un mouvement simple qui s'est passé. Donc Olympe de Gouges écrit énormément, participe, pas simplement dans la vie des salons, elle va aussi s'exprimer dans la rue. Elle trouve un moyen très simple à l'époque, elle fait éditer à ses frais des affichettes avec des textes politiques et elle invective régulièrement les parlementaires pendant toute la période en faisant des lettres ouvertes. C'est la période des lettres ouvertes avec le fait qu'on colle sur les murs, on pourrait le faire aujourd'hui, donc il y a énormément de diffusion et c'est comme ça qu'on a récupéré beaucoup des textes d'Olympe de Gouges. En attendant, Olympe de Gouges disparaît, j'ai envie de dire, de l'histoire pendant un bon moment, hein, près de 150 ans, où on n'a quasiment pas entendu parler d'elle. Pourtant, elle est guillotinée en 1793 et au moment où elle est guillotinée, elle dit « Ce que j'ai fait pour le peuple, je l'ai fait pour le bien et tout le monde s'en souviendra. » Et tout le monde s'en est pas souvenu tout de suite. Hein. C'est un personnage qui a beaucoup produit sur la question de l'égalité, qui a revendiqué et qui a produit un texte essentiel qui est la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Ce texte-là est important d'abord parce que une des formules les plus connues de l'homme de Gouges est l'article 10 de cette déclaration. La femme a le droit de monter à l'échafaud. Pourquoi n'aurait-elle pas le droit de monter à la tribune? C'est très important de comprendre que sa revendication et la revendication d'Olympe de Gouges, qui est quand même très isolée, il ne faut jamais l'oublier, hein, ils sont peu allés jusqu'au bout, c'est une revendication qui explique les choses, qui a cette caractéristique de pouvoir à chaque fois démontrer. Et dans sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle fait, c'est très court, mais c'est vraiment toujours d'actualité. C'est un petit livre qu'on peut lire et qui dit, moi je trouve beaucoup sur la façon dont on doit imaginer l'égalité. Enfin, je vais essayer de retrouver parce que j'avais dans mon texte noté quelques passages. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. C'est-à-dire qu'elle a repris la formule de la déclaration des droits de l'homme. Hein, tous ces articles sont expliqués. Après, elle a un préambule dans ce texte qui est toujours intéressant. Homme, es-tu capable d'être juste? C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe ? Hein, et c'est des textes qui parlent encore aujourd'hui sur la question de l'égalité. L'autre personnage qui est sur la même veine et qui, j'ai envie de dire, subira le même sort, même s'il ne sera pas guillotiné, il sera retrouvé mort dans sa cellule, c'est Condorcet, hein, qui aura été arrêté à Bourg-l'Égalité, qui depuis se rappelle Bourg-la-Reine. Ça fait partie des petites choses de la Révolution française quand même, qui n'ont pas duré, que c'est bien dommage, mais qui existent. Condorcet, lui, se démarque, son apport particulier sur la question de l'égalité, c'est la question de la mixité. C'est-à-dire, non seulement il revendique l'égalité homme-femme, mais il considère que il y a un enjeu sur l'enseignement, pas seulement sur l'enseignement, et que cet enseignement doit être organisé sur le fait que les petits garçons et les petites filles doivent être ensemble, et pas simplement les petits garçons et les petites filles. Il a sur l'adolescence des textes où il explique très sérieusement que la période de l'adolescence, c'est une des périodes essentielles où il faut qu'il y ait la mixité. Parce que cette mixité permet à l'un et l'autre des sexes de découvrir le dialogue amoureux, et de ne pas se retrouver dans une situation de confrontation et d'incompréhension. C'est des textes de la Révolution française.
Des quel éléments. Livre, ça
c'est... Alors quel ça, c'est dans les textes qui ont été publiés en 1792, si je me rappelle bien. Je vais te retrouver le livre. C'est sur la défense et l'illustration de l'enseignement. Je te le retrouverai, parce que je l'ai noté, mais je ne sais plus où.
Et tu me diras après, merci.
Condorcet produit, que j'ai tout noté, mais après, il faut le retrouver. Évidemment, si vous me posez des questions en plein milieu...
Excuse-moi.
Max,
excuse-moi.
Vous enlèverez Max. Non, mais je vous ferai passer de façon la version écrite. Mais juste pour revenir là-dessus, c'est une idée qui sera pas reprise hein, pendant la Révolution française, et c'est sans doute une des idées qui arrivera le plus tard dans l'idée du féminisme, et qui ne sera pas forcément portée que par les femmes. Mais c'est vrai que c'est pour moi les deux personnages qui ont le plus produit par écrit, avec la différence, c'est qu'Olympe de Gouges osait la provocation, c'est-à-dire oser s'imposer, écrire ses textes, les publier, etc. Autant Condorcet va publier pendant la Révolution française au début ces textes-là, mais au moment où il est chargé par la Convention d'écrire les projets de loi sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et sur l'instruction publique, il y a un mot qui disparaît, c'est le mot femme. C'est-à-dire que c'est le fruit certes d'une commission, mais on ne sait pas, ou on se doute que c'est sans doute un certain nombre d'éléments qui font que le rapport de force, le sentiment que peut-être pour lui, comme il sent que ça ne va pas passer, il s'auto-censure, etc. Mais c'est vrai que, autant au début de la Révolution, dans ses discours comme dans ses publications extérieures, il avance ses idées, autant dans les textes officiels qu'il fait au nom de l'Assemblée et de la Constituante, une partie de ces idées-là disparaissent. En tout cas, il a au moins, il ne faut jamais le sous-estimer, le mérite de d'avoir écrit tout ça. Que ce soit Condorcet ou Olympe de Gouges, c'est des vraies mines de textes qui nous permettent de mieux comprendre et appréhender certains des débats de la Révolution française. Enfin, il y a deux autres personnages. Alors, l'une est anglaise, hein, je vous ai prévenu, Mary Wollstonecraft. Hein, et l'autre n'est pas française, mais elle vit en France, c'est Erouane de Méricourt. Ces deux personnages sont moins connus, elles existent et elles sont importantes dans l'histoire de la Révolution française. Je vais commencer par Erouane. Erouane est l'activiste de la Révolution française. Elle va revendiquer l'égalité. Elle est moins connue pour... Une des raisons essentielles, c'est une excellente oratrice. C'est sans doute, à l'époque, quelqu'un capable d'haranguer les foules sans problème, mais elle n'écrit pas. Et on n'aura quasiment aucun des textes d'elle qui lui survivront. L'autre particularité, c'est qu'elle va être souvent accusée, entre guillemets, de porter la violence et d'exprimer ce que les hommes auront rejeté en rejetant le droit de vote et d'expression politique aux femmes, c'est-à-dire l'idée que les femmes sont des hystériques. Ça, c'est pas l'apanage que des royalistes considéraient que les femmes n'avaient pas leur place dans l'espace public. La bataille a été dure et pas complètement gagnée pendant cette période. Et donc Thérouanne, et c'est vrai, parmi les femmes qui se mobilisent dans les journées de septembre, qui participent d'un certain nombre d'actes, y compris elle a participé, les faits le disent, à l'assassinat collectif d'un royaliste. Donc c'est quelqu'un qui est dans l'action complètement, mais qui revendique à ce titre-là, comme les hommes, le courage de pouvoir se battre et de défendre la Révolution française et la liberté. Elle représente l'image de ces femmes complètement occultées de la Révolution française, hein, qui sont caricaturée souvent comme inexistante. Or, la Révolution, elle a aussi été portée par les femmes. Et jusqu'en 1794-95, les femmes ont régulièrement, c'est-à-dire par leurs actions, par leurs grèves, par leurs mobilisations, par leurs manifestations, sauvé, soutenu les régimes en place, c'est-à-dire la Révolution contre les autres. Hein, et il y a eu le club des tricoteuses qui montait, qui était en haut de l'Assemblée et qui s'exprimait et invectivait les hommes. Donc, tout ça existait. Malheureusement pour Thérouanne, elle a une fin tragique. Elle est quand même secouée et elle finit un jour par être mise à nu par d'autres femmes et fessée en public. Et à ce moment-là, on dit qu'elle est devenue folle. Cette folie qu'aurait peut-être dans d'autres temps, d'autres lieux, été traitée autrement, là, son frère décide de la faire interner et elle passera 23 ans dans les hôpitaux psychiatriques de l'époque, où elle finira par arrêter de manger et de se laisser mourir de faim. Donc c'est un des personnages qu'on connaît peu, qui a beaucoup participé des mobilisations sociales de l'époque, qui n'est pas une bourgeoise, loin s'en faut. C'est vraiment quelqu'un qui est issu du peuple, qui a une vie, c'est la Cosette de l'époque, hein, orpheline, elle est placée chez sa tante, qui en fait une servante, puis elle s'enfuit, elle va chez son père, sa belle-mère la maltraite, puis elle s'enfuit avec ses deux frères, et c'est sa grand-mère qui la maltraite. Enfin, vous voyez, voilà, quant à sa vie amoureuse, elle a été à peu près équivalente, où elle a en plus attrapé la syphilis. Enfin, dire que c'était vraiment le premier personnage, si on veut comparer par rapport aux autres, qui n'étaient pas issus de la bourgeoisie. Hein, et ça, c'est aussi un des éléments importants, parce qu'on va s'apercevoir qu'entre la Révolution française et 1870, l'arrivée des Louise Michel et autres, on a changé complètement de ressort pour la mobilisation des femmes. C'est souvent, d'un côté, au début, les femmes des salons, hein, qui se font connaître dans les salons. Elles ne sont pas toutes nobles, mais c'est dans cette expression d'artistes littéraires. Et on va découvrir ces femmes qui travaillent, qui ont des métiers et qui vont devenir les représentantes femmes de la classe ouvrière. Alors le dernier personnage, c'est un personnage anglais. Je l'appelle Marie. C'est une femme de lettres, romancière. Pour l'époque, beaucoup d'avance en Angleterre, puisque elle va porter, j'ai envie de dire, en même temps que ce qui se passe pendant la Révolution française, les mêmes idées que Olympe de Gouges. Elle va publier, elle aussi d'ailleurs, une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne pour répondre à un Anglais qui était l'ennemi juré de Marx, qui avait dénigré dans un livre La Révolution française, les idéaux des droits de l'homme et du citoyen, qui s'appelait Edmund Burke. Et donc, elle a cette particularité de faire partie de ces courants de pensée de l'époque, comme William Blake, je ne sais pas si vous avez vu l'exposition qui a eu lieu à Paris, comme Thomas Paine. C'est-à-dire qu'il y a aussi une émulsion culturelle en Angleterre, et parmi cette émulsion, il y a Mary Wollstonecraft. C'est une catastrophe mon anglais, qui est une autodidacte elle aussi et qui va se cultiver, écrire, devenir une romancière, être reconnue, publier une quinzaine de romans et devenir une essayiste qui va défendre pendant tout le reste de sa vie la Révolution française et les idées dans la Révolution française de la place des femmes. Elle était très en avance sur son temps, puisque non seulement elle revendiquait l'égalité, mais elle apportait une chose particulière, c'était elle a mené une grande lutte contre le mariage. Elle considérait que le mariage était la prostitution légale. Ça fait rire, je vous rappelle que Simone Veil a repris à son compte cette idée-là. Donc on s'aperçoit que dans ces années-là, la naissance du féminisme prend plusieurs formes. Hein, et que dans ces plusieurs formes philosophiques de pensée, etc., il y a tous les éléments de la libération du corps, de l'émancipation de la femme, de l'égalité dans le champ politique et de la capacité ou non de pouvoir être en lien et vivre ensemble et en communauté. Donc voilà un peu le panel. Alors que peut-on tirer de cette période? C'est vraiment les prémices du féminisme. La Révolution française a abouti à des vrais changements. Le monde ne sera plus pareil après la Révolution française. L'ordre des choses aura été bousculé, pas qu'en France. Ça sera, j'ai envie de dire, quasiment partout la fin de la monarchie absolue, des choix de monarchie constitutionnelle ou de république. Et ça sera en tout cas, dans toute l'Europe et jusqu'en Amérique, des remises en cause des ordres. Je vous rappelle la noblesse, le clergé et le tiers d'État. Mais pour la femme, c'est pas à cette époque-là dont on peut dire qu'elles ont conquis leurs droits. Elles ont conquis quelque chose quand même. C'est la première fois que dans un espace public, elles apparaissent et elles s'expriment. C'est une période où, de 1789 à 1793, qu'est la décision quand même de la fermeture des clubs et des salons. L'interdiction pour les femmes de se réunir à plus de 5, alors que les hommes, c'était 9. Voilà. C'est donc quand même une période particulièrement dangereuse. Donc c'est quand même une période importante qu'il faut regarder comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement la juger pour nous, à l'aune de nos yeux modernes, disant « Oh, ils n'ont rien fait ». Ils ont fait un certain nombre de choses, ils n'ont pas tout fait. Il ne faut pas les regarder non plus en disant, de toute façon, ils ne pouvaient pas faire plus. Il faut essayer d'avoir cette distance et ce regard qui nous permet de prendre en compte les faits sans les interpréter trop dans un sens ou dans un autre et sans s'extraire non plus complètement d'où on est. Donc voilà, la révolution, c'est la première fois que les femmes rentrent dans l'espace public. Après les temps du directoire, de la restauration, dire comme les femmes ne sont plus dans l'espace public, c'est un peu le renouveau des salons. Jusqu'en 1830, 1848, va y avoir de nouveau des salons où on va voir un certain nombre de personnes exister et se développer. C'est aussi dans les salons que va se développer, avant d'être sur la place publique, les textes de Beaumarchais. Je vous renvoie au mariage de Figaro, où il y a, pour le personnage Marceline, une très belle tirade où elle explique qu'on donne le sentiment aux femmes d'être respectées, mais qu'en fait elles ne sont que les esclaves des hommes. Donc il y a dans les salons de nouveau, les questions littéraires, une expression qui va là rencontrer un mouvement encore à mi-chemin entre le littéraire et le politique. Après, les nouvelles entrées, j'ai envie de dire, dans le féminisme, dans l'expression, etc., c'est avec la constitution du mouvement socialiste. Mais d'abord avec Fourier et Saint-Simon. C'est les deux seuls courants, j'ai envie de dire, qui ont donné un espace aux femmes. Saint-Simon et Fourier de façon différente. Souvent, les femmes ont trouvé dans ces deux mouvements un lieu où elles avaient leur droit à la parole, leur droit d'expression, Saint-Simon prenant souvent la liberté complète du corps, du sexe, de l'alliance, c'est-à-dire qu'il y avait des unions libres. Mais en même temps, il y avait quand même toute une espèce de mystique religieuse qui font que beaucoup de femmes qui se sont engagées dans ce mouvement vont basculer progressivement dans le mouvement de Fourier. C'est-à-dire que les premières expressions, c'est de là, mais ceux qui ont le plus abouti à l'égalité, ou en tout cas à la revendication d'égalité, c'est chez Fourier. Parce que chez Saint-Simon, il y a certes les femmes ont des droits dans l'espace privé, mais il y a quand même l'idée que les femmes ne peuvent pas complètement être égales des hommes. Elles peuvent être égales entre elles quand elles sont dans la communauté de Saint-Simon, mais certains de ces théoriciens expliquent que quand même, elles n'ont pas encore le droit d'avoir droit à participer de la hiérarchie des Saint-Simoniens. Donc là, on voit les premières fissures, mais en même temps, quand on voit aussi sur la naissance de l'anarchisme, on verra que il y avait quand même au début plus d'espace et pour les femmes dans le mouvement de Saint-Simon ou chez Fourier, notamment chez Fourier, que dans les autres mouvements socialistes ou anarchistes. Donc les moments où les femmes s'expriment, c'est aussi beaucoup dans les mouvements révolutionnaires. Pourquoi ? Parce que c'est des moments d'ébullition, les grands moments d'ébullition de 1830, 1848, 1871. 1830, c'est quand même beaucoup une révolution, j'ai envie de dire, bourgeoise, assez brève, de quelques jours, donc il y a peu d'expression, etc. C'est quand même en 1848 que de nouveau, on voit apparaître le développement et l'idée du féminisme au travers d'un personnage qui s'appelle Eugénie Niboyer, N-I-B-O-Y-T, qui crée le 20 mars 1848 la Voix des femmes, qui est dans un premier temps le principal relais des revendications féministes. Elle créera aussi ensuite la politique des femmes avec Désirée Gay, ou encore l'opinion des femmes qui sera publiée avec Jeanne de Rouen. Ces trois personnages-là vont participer de la révolution de 1848, être les expressions des femmes. 1848, c'est important parce que d'abord, c'est la première fois dans un moment où les femmes vont pouvoir voter. Elles vont participer de la désignation des membres de la commission Luxembourg. La commission Luxembourg, c'est la commission qui est chargée de savoir si on va créer ou pas un ministère du Travail. Donc c'est une commission importante, même si les lois qu'ils vont faire voter ne seront, comme on vous l'a dit, jamais appliquées. Mais c'est quand même important. Les revendications, elles portent sur trois éléments. Les questions de travail. Pour la première fois, on voit apparaître des revendications sociales. Dire on veut avoir la reconnaissance de notre salaire et de notre travail, car c'est l'élément de notre indépendance vis-à-vis de nos pères et de nos maris. Donc, premier temps. Deuxième temps, les ateliers nationaux ne doivent pas être ouverts qu'aux hommes, mais aussi aux femmes, parce qu'il y a toute une série de métiers de femmes qui nécessitent qu'ils se mettent en place un même système de solidarité qu'offert aux hommes. Les brodeuses, il y a énormément de temps. Alors évidemment, les nombres ne sont pas les mêmes. On est à 20 000 femmes dans les ateliers nationaux contre à peu près 150 000 hommes. Faut comparer. Tout n'avance pas. Dernière revendication, c'est la revendication du droit de vote. Enfin, dernière, mais pas anecdotique. Là, les parlementaires tranchent en disant « Nous ne pouvons pas trancher. Ce sera à la nouvelle Assemblée qui reviendra de savoir si on vous accorde ou pas le droit de vote. » Alors, il y a quand même l'élément, j'ai envie de dire, positif, c'est de se dire que c'est pas si illégitime de se poser la question. L'élément négatif, c'est de s'apercevoir qu'on le reporte. Et comme vous vous rappelez, l'élection ne donne pas le résultat espéré, les campagnes n'ayant pas tout à fait voté comme les villes. Et donc, on arrive à une assemblée qui, très majoritairement, va remettre en cause l'ensemble des lois proposées et votées pendant la période 1848. Voilà. Donc, Mais en même temps, on voit apparaître là, dès 1848, et ça va se retrouver complètement et pleinement en 1871, c'est la montée des femmes qui travaillent, qui s'organisent, qui se cultivent. Alors il y a deux catégories qui sont très importantes et qui vont beaucoup peser. Les imprimeuses. L'imprimerie n'est pas réservée aux hommes. Et alors, avec la particularité, là encore, du statut de la veuve, qui, je vous le rappelle, ne peut pas posséder une femme, etc., etc. Mais quand on est veuve, justement, c'est le seul moment où on peut posséder de plein droit un outil de travail. Et donc, on va se retrouver avec une série de femmes qui sont à la tête d'un petit réseau d'imprimerie et qui vont représenter, on va dire, l'aile marchande, qui, parce qu'elles sont imprimeuses, savent lire, savent écrire, donc participent de la diffusion des idées. Ça, c'est important de bien mesurer ça. Hein. Deuxièmement, il y a la naissance, depuis le fourriérisme et le saint-simonisme, de ce qu'on va appeler les écoles libres, libres de Dieu. Donc il va y avoir beaucoup de structures qui vont se monter dans ces périodes-là. Et d'ailleurs, une des institutrices qui va être l'égérie de la commune, c'est Louise Michel, qui sera à la tête d'une de ces écoles. Elle sera à la tête d'une de ces écoles. Pourquoi ? Parce qu'elle a réussi le concours, l'institutrice, mais elle refuse à 21 ans, en Haute-Marne, de prêter serment et fidélité à l'Empire. Donc elle s'en va et elle va elle-même, il y aura d'autres exemples, hein, ce ne sera pas la seule, à monter ces écoles ouvertes au peuple. Donc on a une situation où certes ça ne touche pas tout le monde, mais dans les villes, l'instruction se développe et l'idée que l'instruction est un droit, une revendication légitime pour les plus pauvres, se développe. Et donc quand on va arriver à 1871, on aura quand même ces phénomènes. C'est-à-dire qu'entre 1848 et 1871, c'est pas Waterloo, Marne Plaine. Il y a des éléments de diffusion, des idées, les campagnes des banquiers républicains. Il y a tous ces phénomènes qui se développent et les femmes prennent de plus en plus d'espace. Hein. Je rappellerai que au XVIIIe siècle en Angleterre, on considère qu'il y a eu à peu près 2000 ouvrages qui ont été publiés, romans, et que sur ces 2000, il y en a 600 qui étaient écrits par des femmes. Donc c'est pas des à côté. Tout ça, progressivement, se développe. Alors, on va abandonner quelques instants la France pour passer à l'Angleterre et aux États-Unis, parce que sur la revendication du droit de vote, du droit des femmes, c'est le mouvement des suffragettes, hein, qui va beaucoup animer l'Angleterre et les États-Unis. C'est aux États-Unis que les femmes obtiennent en 1880, j'ai un trou, mais je vous retrouverai la date, pour la première fois, le droit de vote. Ces revendications, elles sont... pourquoi ça marche plus vite dans les pays anglo-saxons que chez nous, l'acquisition, puisque les Anglaises l'auront en 1919, etc. Alors, il y a plusieurs raisons. Sans doute le fait que l'homogénéité politique sur cette revendication a été très forte et les mouvements des suffragettes étaient très, très importants. Puis après, il y a des éléments de contexte. Dans les arguments avancés par les femmes en Angleterre comme aux États-Unis, surtout aux États-Unis, ils ont avancé et elles ont avancé l'utilité du vote en disant, nous on est là, il y a des immigrés qui arrivent et si vous voulez que ça soit stable, si vous nous donnez le droit de vote, on équilibrera le vote des nouveaux arrivants dont on n'est pas sûr qu'ils ne soient pas communistes, socialistes, etc., etc. Alors ça peut faire rire, mais c'est aussi un des arguments qui a pesé dans les années de la construction des États-Unis. Puisque ceux qui s'exilent...
En France, puisqu'on ne donnait pas le droit de vote, la troisième n'a pas donné le droit de vote. Justement parce qu'elles étaient trop politiques.
Voilà, les arguments, les éléments, c'est pas que des éléments toujours aussi fabuleusement émancipateurs qu'on voudrait le donner. Donc revenons à 1871, c'est quand même, j'ai envie de dire, pour moi, la période de la naissance du féminisme tel qu'on pourrait la qualifier de féminisme moderne. parce qu'il lie complètement la question de l'émancipation, de la revendication, à la question sociale. Il ne sépare plus les deux. Hein, et on a des dizaines de personnages, alors je ne vais pas tous vous les présenter, bien sûr il y a Louise Michel, mais elles sont nombreuses à avoir participé directement à plein de postes, les ambulancières, les cantines, beaucoup de restaurants ont été créés, des restaurants collectifs, les bases par des femmes, et puis elles ont été soldats. Il ne faut jamais l'oublier, même si, y compris pendant... la semaine sanglante, beaucoup d'hommes contestaient qu'elles soient là. Elles ont pris des armes, défendu les positions, c'est-à-dire qu'elles ont joué le rôle. Mais avant ça, pour bien comprendre pourquoi les femmes existent autant dans la période de la Commune, n'oubliez pas que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, les hommes, ils sont où? Ils sont au front, ou ils sont capturés, ou ils sont en déplacement. Donc, dans les villes, notamment à Paris, c'est les femmes qui sont les plus présentes et assurent, comme on le verra en 1914, de 14 à 18, faire tourner la marmite. Hein. L'idée de la femme au foyer, dans cette période-là où il faut faire en sorte de rapporter quelque chose à la maison, elle s'écroule, parce que il y a des bouches à nourrir, etc. Donc on est dans l'acquisition pour la femme d'un espace réel dans le travail, qui sera évidemment à chaque période de paix contestée. Mais là, elle existe. Ensuite, qu'est-ce qui crée la frustration en plus de la défaite? Deux éléments de décision politique. La première, c'est une décision qui dit qu'on va supprimer les pensions de 30 sous aux veuves des militaires morts. Or, pour beaucoup de femmes, ces 30 sous, c'est ce qui permet de faire un peu plus que ce qu'elles obtiennent en travaillant. Et deuxième élément, c'est l'annonce de la suppression de la fin du moratoire sur le paiement des loyers. Ah oui, vous arrivez dans une période où on vous retire des sous et on vous dit de payer. C'est assez classique, c'est un procès brutal, mais ça crée les conditions d'une émulsion minimum ou d'une révolution maximum. C'est des éléments où celles qui vont le plus monter, contester et faire fuir le Parlement qui était à Paris, qui va s'enfuir à Versailles, ce sont les femmes qui se rassemblent devant le Parlement. Donc elles ont pris un espace énorme pendant cette période. Elles participent complètement de la vie politique de la Commune de Paris et des personnages comme Clémenceau qui sera maire de Montmartre pendant la période va créer des liens très particuliers avec Louise Michel. Beaucoup d'hommes politiques qui vont, pendant la Troisième République, occuper le pouvoir sont issus de ceux qui ont été formés jeunes pendant la Commune de Paris. Et souvent, on dit que la Commune de Paris, c'est un gros échec. C'est un bain de sang, hein. C'est 30 à 40 000 morts pendant la semaine sanglante. C'est 72 jours de pouvoir, c'est très court. Mais cette période-là, c'est aussi une période de formation des revendications et des exigences. Les revendications de la Commune de Paris, ce n'est pas rien. C'est l'abolition de la peine de mort. C'est la création de l'école publique libre, laïque et gratuite. C'est la revendication d'égalité entre les hommes et les femmes. Et on peut prendre la liste. Et on s'apercevra que ceux qui arrivent au pouvoir à partir du début de la Troisième République vont pour une bonne part mettre en mots ce qu'ils avaient porté pendant la Commune, avec les lois d'association. Voilà, 1880, puis les lois sur les associations, puis les lois de séparation de l'Église et de l'État, c'est aussi une des mesures votées par la Commune. Bon, toutes ne vont pas aboutir, mais c'est vraiment l'expression, y compris sur les revendications sociales, des garanties de caisse de solidarité, des salaires minimums, des durées de travail, hein, puisque la Commune vote le fait que la durée de travail est limitée à 11 heures à Paris et 12 heures en province, etc. Toutes ces lois-là, on va les retrouver à partir de 1880 dans la Troisième République. Alors les femmes, elles ont été nombreuses. multiples et elles ont pris beaucoup de place. Mais pour que vous compreniez quand même le rapport homme-femme, y compris pendant, la révolution de 1871, je vais juste vous lire les quelques lignes d'échange entre le président de la 6e cour du Conseil de guerre qui interroge Louise Michel, hein, qui lui dit « Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Et Louise Michel dit « Ce que je réclame de vous, qui êtes des militaires et qui jugez à la face de tous, c'est le champ d'exécution où sont déjà tombés nos frères. Il faut me retrancher de la société. On vous dit de le faire, eh bien le commissaire de la République a raison, puisqu'il semble que tout mon cœur bat pour la liberté et que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit qu'à un peu de plomb. J'en réclame une pour moi. Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance. » Le président lui dit « Mais taisez-vous, vous allez... » Et elle dit « J'ai fini. » Voilà. Elle sera condamnée à mort. Sa condamnation à mort sera commuée en déportation en Nouvelle-Calédonie, où elle rejoindra des personnes comme Nathalie Lemel, qui elle aussi était partie prenante de la Commune de Paris, qui elle aussi a pris les armes, qui elle aussi s'est fait arrêter. Mais autant Louise Michel était, j'ai envie de dire, de tradition socialiste dans son premier engagement, autant Nathalie Lemel était anarchiste, et Louise Michel va devenir anarchiste dans sa période en Nouvelle-Calédonie, au contact de Nathalie Lemel, et au retour, c'est elle qui sera le symbole de l'anarchisme. En même temps, l'anarchisme, c'est pas que Louise Michel, c'est aussi un peu Proudhon, un personnage qui n'avait pas forcément pour les femmes l'idée qu'on peut se faire de l'égalité. C'est-à-dire que dans tous les mouvements, et on va le voir sur le socialisme, sur le communisme, sur l'anarchisme, il n'y a pas le blanc, les super gentils, et le noir, les super méchants. Hein, c'est pas Walt Disney, la vie. C'est plus complexe que ça. Et on est dans des sociétés où, y compris dans ces mouvements, il y a des porteurs d'émancipation, d'égalité, et il y a des gens qui refusent, au nom d'un certain nombre de convictions personnelles, l'idée qu'il puisse y avoir égalité entre les hommes et les femmes. En attendant, pendant la Commune de Paris, il y a eu, on peut dire, dans les 30 000 morts, on peut considérer qu'il y a à peu près un tiers de femmes qui sont mortes. C'est pas rien. Et on peut considérer que sur les déportations, elles étaient minoritaires, mais elles ont représenté 10 à 15%. Donc c'est important d'imaginer ce qui a pu se passer. Alors, elles sont, je vous ai dit, Nathalie Lemel, qui, elle, était libraire à Quimper et qui s'est installée à Paris et qui a beaucoup œuvré dans les milieux militants et féministes. Il y a André Léo. Alors, André Léo, c'est André E, sans E, et Léo, alors c'est un pseudonyme. C'est du nom de ses deux enfants, André et Léo, parce qu'en fait, de son vrai nom, elle s'appelle Léotilde Bréa. Le problème, c'est que quand vous faites une bio, vous la classez rarement dans les féministes, parce que ça ne sort pas en nom féminin. Voilà. Mais c'était une femme de lettres, féministe, qui a vécu en Suisse, qui est venue à Paris, qui a participé de la Commune de Paris et qui a eu la chance d'échapper aux Versaillais pendant la Semaine sanglante et s'est réfugiée de nouveau en Suisse où elle a fini sa vie. Ensuite, il y a eu Elisabeth Dimitrieff ou Paul Mint, qui sont des socialistes d'origine russe. Il y a eu beaucoup dans cette période d'échange avec les Russes, souvent par la Suisse, si vous comprenez... le début, j'ai envie de dire, des mouvements et de la constitution de la première internationale, vous apercevrez que beaucoup des congrès ont lieu en Suisse parce que c'est un pays neutre, donc il accepte un certain nombre de choses, et que les réfugiés russes qui étaient poursuivis par le tsarisme, les Anglais, les Français, les Allemands, se sont souvent retrouvés dans cette zone-là.
C'était le lieu de résidence principale de la Queen.
Voilà.
Deuxième élément de l'anarchisme, qu'on ne peut quand même pas réduire à Proudhon, qui est plutôt marginal.
Ça, moi, j'en sais rien. S'il est marginal, quand je rencontre des anarchistes, ils ne disent pas tous la même chose. Non, je ne leur permettrai pas de...
La fondation mouvement.
Tout à fait.
Il était à l'intérieur de l'AIT assez marginal, puisqu'il est mort en 1865 et il n'a pas pu vraiment.
Il n'a pas participé là.
Il n'a pas pu participer au fondement de l'AIT. Et dans l'AIT, bien qu'il ait fondé l'AIT avec Bakounine, Marx et Proudhon, donc, et dans l'AIT, c'est le bakouninisme, c'est avec le bakouninisme que Marx est fruité. Proudhon, il existait déjà plus, il était mort.
Donc, oui, mais ça n'empêche pas ce qu'il a dit. Enfin, moi, je conteste
tu as quand même deux grandes tendances entre le proudhonisme en Ile-de-France et le bakouninisme en Lyonnais.
Oui, oui, tout à fait. Mais en même temps, on ne peut pas simplement montrer que l'anarchisme, c'est Louise Michel et Bakounine, et extraire des mouvements, des phrases et des portées politiques comme Proudhon, qui explique qu'une femme ne peut plus faire d'enfant quand son esprit, son imagination et son cœur se préoccupent des choses de la politique, de la société et de la littérature. C'est... Voilà. Je ne te demande pas si tu... Voilà. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Ce qui est sûr dans la période de 1870 jusqu'à 1905. Moi, je m'arrête là parce que c'est la date de la mort de Louise Michel. Elle est morte un 9 novembre. Olympe de Gouges a été guillotinée un 3 novembre. Donc, on a pris le 5 un peu entre les deux. Mais c'était vraiment par hasard. Qu'il ne faut pas oublier sur cette période-là, c'est que le féminisme, à partir de là, va quand même s'organiser en association et en société, et y compris en courant à l'intérieur du courant socialiste et du courant anarchiste. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus une expression, une presse féministe, et les femmes vont revendiquer un espace à l'intérieur de ces mouvements-là, même si elles vont se retrouver régulièrement confrontées au moment des congrès à des idées, des personnes qui porteront le fait qu'il n'y a pas de possibilité d'égalité entre les hommes et les femmes. Et la particularité, j'ai envie de dire, de la France, c'est qu'on va quand même avoir une revendication d'égalité qui va être longtemps portée par, sur les questions sociales, mais que sur la question politique de l'espace politique, on n'aura pas le mouvement des suffragettes comme ça a pu exister en Angleterre, pas de la même manière, parce qu'on se retrouve en fait dans une situation au moment où le mouvement des suffragettes prend de l'ampleur en France, c'est au début, quelques jours ou quelques semaines avant la Première Guerre mondiale. Et donc, le mouvement, hein, c'est à Paris, il y a un rassemblement, il y a 6000 femmes qui se mobilisent pour demander, exiger le droit de vote. Seulement, voilà, 15 jours ou 3 semaines après, c'est le début de la guerre, donc ce mouvement est balayé, hein, par la guerre, et de nouveau, au lendemain de la guerre, on sera encore dans l'argument avancé et répété, il ne faut pas donner le droit de vote aux femmes parce qu'elles sont trop influencées par l'Église, et donc la meilleure façon pour, entre guillemets, la gauche de conquérir le pouvoir, c'est de faire en sorte que les femmes n'aient pas le droit de vote. Hein. Ça a été pendant longtemps un des arguments avancés. Mais pour revenir sur la question, enfin sur la période, j'ai envie de dire, qui marque la vie de Louise Michel, il y a sa participation à la Commune de Paris comme élément politique et active. Hein. C'est le fait que pendant cette période, on ne sépare pas d'un côté la théorie et de l'autre côté la pratique. C'est vraiment des femmes engagées. Et puis après, c'est son passage en Nouvelle-Calédonie. Peu de gens le savent, mais elle est restée en Nouvelle-Calédonie jusqu'en 1880. Puisqu'est la date de l'amnistie, et elle va participer, ça va être quasiment la seule, au soutien de la révolte kanak du chef Fataï. Et quand tout le monde dénigré, y compris un certain nombre de communards, ont pris les armes contre les kanaks, elle a, pendant son temps d'exil, elle a appris la langue, elle a ouvert de nouveau une école, et elle a de nouveau enseigner un certain nombre de choses. Donc, ce qui peut caractériser le personnage, c'est que la notion d'égalité entre les hommes et les femmes, pour elle, n'était pas une théorie. Elle l'appliquait et elle considérait que il y avait là un enjeu et un engagement à apprendre. Après, elle va basculer. Alors, on peut dire qu'elle va basculer dans l'anarchisme. Je crois que c'est une chose est sûre, c'est qu'elle ne croit plus durant toute la période où, en Nouvelle-Calédonie que le débouché soit un débouché politique. Elle dit dans un de ses écrits le meilleur régime qui ait jamais été mis en place, c'est le régime de la Commune. On a vu comment il a fini. Ce n'est plus possible d'obtenir par les voies démocratiques l'avancée et les exigences d'égalité que l'on porte. Pas simplement sur le féminisme, parce qu'aussi la caractéristique de Louise Michel et ses femmes, c'est qu'elles ont une revendication d'égalité dans l'enjeu que représente l'affrontement des classes. Alors, ce n'est pas Louise Michel, ce n'est pas Karl Marx, c'est en fait une autre féministe qui créera, ou en tout cas écrira pour la première fois la notion de classe ouvrière, hein, c'est Flora Tristan, hein, qui est un personnage un peu inclassable, tout à fait énigmatique sous plein d'aspects, tout à fait attachant sous d'autres. Et donc, on va avoir des femmes qui vont pas simplement, j'allais dire, s'exprimer dans le féminisme, mais elles vont s'exprimer dans l'affrontement social et porter des revendications sociales. Ça, c'est aussi une des caractéristiques par rapport à la Révolution française et une Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, ne l'oubliez jamais, était favorable à une monarchie constitutionnelle. Elle était pour l'égalité homme-femme, mais en même temps, l'égalité de tous devant la loi, ou le droit de vote de tous devant la loi, elle considérait que quand même il fallait une autorité au-dessus qui puisse garantir, parce qu'elle n'était pas convaincue complètement de l'universalité et de l'enjeu que pouvait représenter le droit de vote universel. Donc, alors que sur la période 1871, ces femmes, ces hommes qui s'engagent sont quand même des gens qui d'abord revendiquent le renversement d'un système, la remise en cause des inégalités. Et elles ne s'expriment pas simplement sur un des domaines. Elles s'expriment sur l'ensemble de la contestation sociale et sur l'ensemble des mécanismes de la société, sur les questions de redistribution des richesses, sur les questions d'inégalité homme-femme, sur les questions d'inégalité sociale. Donc c'est vraiment dire un ensemble. Hein. Et ça, c'est important de le comprendre, parce que sinon, on va se dire, tiens... Oui, bien sûr que c'est la grande période de la révolution industrielle et qui marque. Alors, en conclusion, est-ce que ces périodes-là sont que des périodes d'avancée? Pas forcément, mais en même temps, on ne peut pas prendre les périodes politiques révolutionnaires simplement les jugeant à l'aune de ça réussit ou ça échoué. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est les enjeux politiques et sociaux du moment, le courage de ces personnages. Ça, on l'analyse assez peu, mais c'est des éléments essentiels, y compris même des fois leur incapacité à prendre la mesure du danger, on pourrait dire. Mais c'est vraiment des périodes qui ont marqué. Et comme je l'ai dit sur la Commune de Paris, comme on peut le dire sur la Révolution française, oui, ils n'ont pas tout réussi, mais un des éléments qui matrice notre vivre ensemble aujourd'hui est beaucoup issu des idées de ces deux événements politiques. Et les femmes ont pris plus peut-être de place en 1871 qu'en 1789, mais aussi elles ont pris une place et elles ont participé de ces débats qui font qu'on a une forme de société, un engagement, des questionnements qui sont peut-être une particularité, mais pas tant que ça, parce que dans beaucoup de pays, les questions qu'on se pose, eh ben, ils se les posent aussi. Voilà, j'arrête.
Merci.
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 Merci beaucoup. Je vais prendre vos frères Rosa Luxembourg.
Moi, je m'interroge sur ces femmes de la Révolution française, parce que c'est extraordinaire. On a l'impression, alors d'abord, je voudrais des informations là-dessus, on a l'impression que ce sont des individualités. Elles sont d'origine sociale diverse, puisqu'il y a même des femmes quasiment lettrées. Alors, est-ce qu'elles se connaissaient? Est-ce qu'il y avait des clubs, on peut dire, féministes? Elles avaient des positions, tu as dit, assez des positionnements assez différents. Plus concrètement, cette période qu'il n'avait pas d'antécédents, il n'y avait pas d'écrits apparemment sur lesquels elle s'appuyait, etc. Comment, j'aurais envie de savoir un peu comment ça a fonctionné ce truc-là, comment ça a émergé.
D'abord, certains se connaissaient. Hein. C'est sûr que Condorcet, Olympe de Gouges se connaissaient. Elle fréquentait les salons de Madame Roland, et les salons de Sophie de Condorcet. Donc, ce groupe-là, entre guillemets, se connaissait. On n'a aucune preuve que Marie ou Thérouanne aient rencontré les autres. Là-dessus, on n'a pas d'éléments de fait historique nous disant ils se sont vus dans tel salon à telle heure, etc. Ce qui est sûr, c'est que la forme associative, organisationnelle ou d'adhésion à une fédération qu'on peut voir émerger plus tard n'existe pas à l'époque. Le premier phénomène, c'est le phénomène des clubs. Le problème, c'est que les femmes en sont exclues. Donc, il y a peut-être juste Thérouanne qui fait partie du cercle des Amis de la Loi, mais qui est un cercle qui va être dissous. Il y a 20 hommes dedans et elle comme archiviste. En plus, pas comme ayant droit. Non, il n'y a pas. Et autant on peut suivre, c'est-à-dire le parcours, pas toujours évident, d'un certain nombre de personnages politiques qui étaient souvent en plus multicartes ou multiclubs, hein, on dirait à l'époque. Autant pour les femmes, non, il n'y a pas.
Il n'y a pas de forme. Ça a émergé du mouvement social. Et dans le mouvement social, ça s'est appuyé sur quoi ? C'est quand même quelque chose, ça. Hein.
Non, le mouvement social pour Olympe de Gouges, je le dis. Non, c'est pas le mouvement social.
Le mouvement social, c'est le.
Non, c'est le mouvement d'une bourgeoisie.
Le débat qui avait lieu à l'époque.
La Révolution française, c'est d'abord une révolution bourgeoise menée par une élite éclairée, qu'elle soit lettrée ou pas, qui contestait l'organisation des rapports du pouvoir, parce qu'on était à un moment donné où l'organisation sociale ne correspondait plus à l'organisation politique. Mmh. Hein, donc ça, plus le mouvement de la philosophie des Lumières, mais c'est pas... c'est-à-dire le peuple a participé à la révolution, les sans-culottes ont participé, les femmes ont participé, mais c'est pas une révolution ouvrière.
C'est-à-dire que ceux qui... Je ne dis pas ça, hein, je ne dis pas ça. Social.
Social.
C'est tout. C'est tout ce qui bouge à un moment donné. À ce moment-là, c'était des forces qui bougeaient à ce moment-là. Et je me pose la question, sur quoi elle s'appuyait, quoi, quand même, parce que
sur l'oppression. Enfin.
Il n'y a pas d'écrit, si. Il y a plein d'écrits, il y a plein de polémiques, dès Louis XIV, dès Capon, Molière, il y a plein de polémiques. Il y a
des comme des femmes.
Tu prends du refait. C'est déjà du féminisme, très fort. Donc, il y a des textes présents dans la bourgeoisie. Pascal l'a très bien dit. Madame du Châtelet, c'est un monument à l'époque. Oui. Certains en causent aujourd'hui, mais c'est un monument. La copine à Voltaire, c'est quand même pas rien, quoi. Donc, était capable de dire fait à l'Académie des sciences. Donc, ça savait, là, c'est une révolution bourgeoise. La bourgeoisie, elle n'a pas travaillé que par des écrits. Enfin, quand tu disais qu'il y avait 2000 romans en Angleterre, je ne sais pas combien il y en avait au 18e en France, mais pas grand-chose. On imprimait peu. C'était. Et surtout ça, c'est une carte de polémique, ça s'imprimait en douce, en Hollande, donc c'est pas possible. Mais ça se parlait, et c'était convivial. Donc tous les salons, dans la bourgeoisie, ça a fait monter. Puis, le fait même de la tradition de marier des vieux avec des jeunes, c'est que les jeunes ils étaient très vite émancipés, qu'il y a deux éleveurs, et qu'à partir de là,
la réalité
du fonctionnement. À la fois, il y a eu tant de salons tenus par des grandes dames, qu'il n'y avait plus d'hommes. Donc le 18e était un siècle extraordinairement féministe, beaucoup plus que le 19e.
dictée, quoi. Oui, voilà.
Elle a tout géré grâce à nous. Non, ce qui est... La corsitude, la machisme. Mais si, il a ramené le machisme absolu dans son code napoléon. C'est une régression énorme sur la révolution. On était en deçà du 18e siècle napoléon. C'est colossal. Il n'y avait plus de veuves sous Napoléon. Les classes trop, on pensait qu'on était obligé d'être marié. Donc, ça a été une régression terrible parce que le 18e, les pauvres, ils ne sont pas mariés non plus dans l'Église. La campagne, c'était pas pareil, mais dans l'Église, c'était pas marié. Donc, voilà. Puis après, le mouvement populaire, comme tu dis, il n'y avait personne qui savait écrire, donc on en a vu des éléments. Alors, on en a des traces, comme les femmes qui sont allées à Versailles, c'est elles qui ont fait le mouvement, c'est clair. Mais il n'y a aucune femme de ce mouvement qui a écrit théoriquement qu'on allait faire un mouvement là-bas. Elles étaient très présentes. À la prise de la Bastille, c'est pareil, c'est elles qui ont chauffé au maximum pour faire démolir la Bastille. Donc elles ont des places extrêmement importantes.
Mais après, qu'il faut intégrer, c'est que la place de la femme dans ces mouvements-là, elle n'est pas toujours mise en valeur, hein, dans l'histoire. Hein. Même dans les faits, on va prendre la ville de Paris, qui est une ville qu'on connaît tous, hein, il y a une statue d'une femme. Non, c'était pas celle-là. C'est la fondatrice, c'est la fondatrice du droit humain, c'est Maria de Sem. Qui est la seule et dont la statue, pour la petite histoire, a été enlevée au moment de Vichy et n'a été réinstallée qu'après. Et puis, il y en a une troisième plus récente qui est suite à l'assassinat du 6 septembre, mais ce n'est pas une statue en entier, c'est juste son visage. C'est-à-dire que la bataille, ce n'est pas la bataille pour dire... C'est aussi une bataille aujourd'hui de remettre, ça veut dire... dans ceux qui ont occupé l'espace, mais c'est pareil pour Émilie du Châtelet. C'est-à-dire, c'est un des personnages centrales, et Voltaire ne devient pas féministe parce qu'il y a Émilie du Châtelet, parce que sinon Rousseau l'aurait été, c'était évident, mais il y a des participations des femmes qui font connaître et qui diffusent et qui participent de la diffusion des idées, hein, des idées de l'encyclopédie qui a beaucoup contribué, hein, les lieux d'expression politique que j'ai dit étaient dans les salons. C'est-à-dire dans les salons on a pu s'exprimer. Ce qui est sûr, c'est que je dirais pas c'est une régression, parce que en même temps c'est une régression par rapport à une catégorie sociale entre guillemets qui était la noblesse et une partie de la bourgeoisie, parce que pour la situation des citoyens, la comparaison est compliquée à faire. Je ne suis pas sûre que c'était mieux d'un côté ou mieux avant ou mieux après. C'est fait partie des éléments difficilement mesurables. Mais pour la catégorie des veuves, oui, il y a une vraie différence, réelle.
Pourquoi je dis ça ? Parce que on pense la période avant la Révolution. On a trop tendance, comme tu disais très très bien, à voir une grande état, non pas des états justement, mais des grands cataclysmes absolus comme ça. Non, c'est que des continuités. Hein. Il y a des gens à la campagne, ils ont vécu qu'à 1789, ils n'ont rien vu passer. Ils ont vécu tout le temps pareil, ils ont vaguement entendu qu'il y avait des bruits, et c'est tout. Hein. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui entendent parler de la crise et qui ne la verront jamais passer. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Il y en a qui ont passé les 5 ans de la guerre sans jamais voir qu'il y avait la guerre. Ils n'ont jamais vu un Allemand, ils ont entendu du bruit, mais ils ont pu se tenir dans leur petite vie à eux, en dehors du mouvement. Donc, il y a une continuité. Il y a les gens qui étaient nés avant la Révolution, ils ont continué à vivre après, hein, même longtemps. Saint-Simon est un cas flagrant. Il a tout passé. Donc,
mais Fourier, non.
Alors, avant la Révolution, le tissu social était moins réglementé qu'après. Donc, c'est en ça que je dis le code Napoléon.
Avant la Révolution.
Française, 1789.
La française, sous l'aristocratie, sous Louis XV, Louis XVI, Louis XIV, la réglementation n'arrivait pas jusqu'en bas. C'était les curés qui faisaient la loi dans les villages. Or, à partir de la moitié du XVIIe, les populations commençaient à migrer. Il y a eu, parce qu'il n'y avait plus de travail sur place, il y a eu des mouvements, hein, ça commençait tout doucement et ça commençait à bouger. Donc on ne peut pas dire, dans la politique qu'il y avait dans les villes en particulier, les villes étaient plus réglementées. Vous lisez tous les textes entre le 18e et le 19e, et en particulier pour le 19e, le bouquin, je vais citer l'autre jour, classe
laborieuse.
Dans le peuple des villes, les mariages, ça n'existait pas. Il n'était pas réglementé. Le code Napoléon a réglementé, mais alors d'une manière extrêmement forte, beaucoup plus forte parce qu'il avait une administration puissante et qu'il contrôlait le pays réellement. Ce que ne faisait ni Louis XVI, ni Louis XV, encore moins Louis XIV. Le contrôle du pays était beaucoup plus, individuel. À travers les gens qui avaient les charges, c'était pas du tout aussi administratif qu'on disait.
Pour les classes populaires, mais néanmoins, la monarchie, c'est une société très réglementée, justement, avec il y a le roi, la reine, les...
Mais elle n'est pas administrée.
C'est une idéologie, elle n'est pas administrée comme l'a été. On a été l'administration mise en place par l'État, à partir de l'État.
Moi, j'ai justement une information, un ressenti, c'est que même sous la monarchie, la place de la femme n'était pas rien. Il y a eu des reines.
Non.
Le problème, c'est qu'en effet, la reine avait tous les pouvoirs à partir du moment que le roi disparaissait.
Non.
Mais après,
non.
Il y avait toute la
monarchie. Non, ah non. Non, non, elle était régente et encore, c'était pas forcément elle, je rappelle. Hein. Il y a eu qu'une. C'était son premier ministre, etc. Mais c'était son.
Sociale, alors je ne peux pas dire entre les comtes, les ducs et les duchesses. Mais
la vie rêvée des reines.
Je suppose que la reine avait quand même une hiérarchie sociale supérieure
d'un coup, tous les mecs étaient.
Aux hommes qui étaient en dessous. Et tout ça, il y avait quand même une hiérarchie sociale, et la femme était dans cette hiérarchie sociale.
Enfin, elle n'avait pas de place, elle n'avait pas le droit à la succession, elle n'avait pas le droit, elle n'avait pas le droit d'ester en justice, elle avait le droit de témoigner, mais on considérait que son témoignage était tendancieux. Elle n'avait pas le droit d'acquérir des biens, hein, les successions se faisaient, c'était toujours la face ignorée. Donc la femme, elle vivait bien quand elle était veuve ou qu'elle avait un mari comme Madame du Châtelet qui avait considéré que sa femme était intelligente, que lui, il aimait faire la guerre et que lui, il la laissait faire ce qu'elle voulait. Mais c'était l'exception. C'est-à-dire que la vie rêvée des duchesses, et des j'en sais rien, mais enfin, bon, c'est pas forcément pour la femme la période la plus...
Je vais essayer d'arrêter la polémique parce que ça ne sert à rien. Je voulais juste marquer que la Révolution a cassé cette hiérarchie-là. Et par contre, Napoléon, avec son code, il a introduit l'idéal de l'administration de quasiment tous les États. Il a inventé l'administration étatique. Et de ce fait même, avec le code Napoléon, il a réglementarisé les rapports hommes-femmes. Et quand vous avez des textes avec des procédures, des lois, surtout se référant à une espèce de Bible, qui est un code, hein, c'est beaucoup plus dur à casser. Après, quand la casse est faite, c'est plus efficace que les systèmes antérieurs qui passaient par des tribunaux de province, qui étaient tout le temps dans le genre à l'anglaise, la loi débattue en commun et produite par les juges. Voilà. Donc, c'est tout. On a affaire à partir de la Révolution à une administrativation et les rapports aux femmes ont été extrêmement réglementés par le code Napoléon. C'est terrible. C'est très en régression sur la Révolution.
Moi, j'ai une remarque à faire par rapport à ce que tu as dit qui m'a beaucoup intéressé. J'ai lu le livre de Catherine Klinsler par rapport à Condorcet, Condorcet de la naissance du citoyen, et elle parle d'un concept de Condorcet que j'ai trouvé, que j'ai pas bien compris lorsque je l'ai lu, mais que je comprends mieux en t'écoutant. Et je comprends mieux pourquoi, parce que c'est un homme d'une grande cohérence. À un moment donné, il est obligé, au vu de ce qu'il dit, d'aller vers l'égalité des hommes et des femmes. Il parle d'indépendance juridique. C'est-à-dire que c'est tout le concept qu'elle dit qu'il met en œuvre à cette époque. Il parle d'indépendance juridique. Elle explique bien qu'il y a une grande différence entre l'indépendance juridique et l'autonomie. C'est-à-dire que il explique que, d'ailleurs, enfin, elle explique que Condorcet dit que c'est souvent les plus pauvres qui sont le plus autonomes. C'est-à-dire qu'il explique que le baron ou le machin, etc., il n'est pas autonome de rien. Il faut des serviteurs, des machins, etc. Mais lui a une indépendance que les autres n'ont pas. Et donc, il part de ce concept d'indépendance juridique. Et c'est à partir de ce concept d'indépendance juridique, c'est-à-dire de ne pas vivre sous la domination de quelqu'un, qu'un citoyen ne peut pas vivre sa domination, que forcément, il y a là un problème si le statut de la femme n'est pas l'égal de celui de l'homme, puisque là, il ne peut pas y avoir indépendance juridique. C'est ça qu'il exprime, et c'est ainsi qu'il arrive à ça.
Construit l'égalité.
Que je trouve en fait très intéressant par rapport aujourd'hui. Elle explique que c'est à partir de là qu'on a construit le principe de justice sociale par la suite, c'est-à-dire que la justice sociale de l'État-providence, c'est vraiment bien le fait qu'à un moment donné, on dit il n'y a plus d'indépendance juridique lorsque je n'ai pas le minimum de ressources, de moyens, de conditions d'existence. Et l'exemple qu'elle cite de Condorcet, que je vous donne parce que je l'ai trouvé extrêmement éclairant, c'est l'exemple, parce qu'il reste toujours sur ce concept-là d'indépendance juridique, même lorsqu'il fait son rapport sur l'instruction publique. C'est-à-dire qu'il y a une question à l'Assemblée qui est de savoir quel est le savoir qu'on va donner à tout le monde. Parce que dans ce rapport-là, donc, il s'agit bien de faire un système d'éducation pour tous, pour former des citoyens, puisqu'on vient de leur donner un droit de vote. Et donc, la question est de savoir quel est l'enseignement qu'on donne à qui. D'ailleurs, il y a des trucs très drôles, parce qu'il donne l'exemple de Saint-Just. Alors, Saint-Just, c'est incroyable. Il est pour une éducation rousseauiste, mais bon. Donc, on sépare les garçons et les filles, on les met à la campagne, ils sont nus, ils mangent pas de viande. Enfin, c'est un truc assez fou, quoi. Ils doivent savoir la même chose. Enfin, dire, on peut pas, un homme ne peut pas en savoir plus qu'un autre. Enfin, c'est un truc, c'est... Paul Poitin, hein, je veux dire, ce qui.
Non, j'aimerais bien qu'on ne fasse pas des comparaisons là où il ne faut pas en faire.
Là,
c'est pas les mêmes. Et donc, il n'a pas fait ça.
Et donc, elle donne l'exemple de ce que dit Condorcet par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il dit la question du savoir est la suivante. Il dit c'est. Il faut donner le minimum que l'on doit donner à tous, c'est ce qu'il est nécessaire pour être indépendants les uns des autres. Et il prend un exemple que je trouve super, donc je vous le lis parce que je le trouve génial. Il dit, voilà, prenons l'exemple d'une personne qui sait faire quatre opérations, une personne qui ne sait pas faire quatre opérations, et Isaac Newton. Il dit, la différence de savoir entre une personne qui sait faire quatre opérations et une personne qui ne sait pas faire quatre opérations est minime. Mais, en 1792, celui qui ne sait pas faire quatre opérations va vivre sous la domination de celui qui sait faire quatre opérations. Alors que la différence entre celui qui sait faire quatre opérations et Isaac Newton est immense, mais celui qui sait faire quatre opérations ne va pas vivre sous la domination de Isaac Newton. Donc il dit, la question pédagogique qui doit revenir devant les députés, c'est quel est le savoir qu'il est nécessaire d'avoir pour ne pas vivre sous la domination d'un autre citoyen. Et à partir de là encore, il justifie par rapport à ce concept d'indépendance juridique l'enseignement pour les femmes. Et la non, c'est-à-dire qu'il construit tout son argumentaire sur l'indépendance juridique. Ce que je trouve très intéressant, puisque aujourd'hui on n'en parle plus, on ne parle que d'autonomie. Mais on ne parle pas d'indépendance.
Ou d'émancipation.
Ce qui est assez intéressant, par le dire, voilà, c'est le concept qu'elle donne, et que j'ai trouvé intéressant en t'écoutant, parce que je comprenais mieux ce qu'il y avait derrière. Quoi. Concept d'indépendance juridique.
Oui.
Moi, je veux bien revenir sur la citation de Proudhon, parce que tout à l'heure, enfin, elle a été prise comme pour dire que Proudhon était contre les femmes et qu'il était anti-féministe. Mais finalement, finalement, le fait de concevoir un enfant, ce qui est le cœur, enfin, l'essentiel de la citation, Proudhon lui dit que, oui, les femmes, c'est difficile de joindre travail ou intérêt, intérêt de laïcité et intérêt à l'intérieur du foyer, concevoir un enfant. Mais même Simone de Beauvoir, beaucoup plus tard, elle n'a pas eu d'enfant pour maintes raisons, certes, mais aussi parce qu'elle sentait ce poids, le poids de la responsabilité de concevoir tout un être humain. C'est quand même un projet qui n'est pas facile, qui est particulier, qui... Et on voit que les femmes, elles en ont parfois plus qu'un seul, quoi. Elles lancent 6 projets, par exemple, 6 projets difficiles, et après, elles veulent aussi réussir au travail, réussir dans la vie publique. Est-ce que c'est complètement absurde de dire que de donner cette responsabilité, cette grande responsabilité au maire, comme l'a fait Proudhon? Est-ce que c'est bien d'avoir des enfants et de les laisser au hasard des choses, au hasard de la rue
Alors il y a deux choses. Dans le mouvement féministe, les femmes revendiquent d'être des êtres à part entière et de ne pas être des outils de la domination de l'homme qui, comme le jardinier et le pommier, font qu'on explique souvent que la pomme est au jardinier et pas au pommier. C'est-à-dire que la femme existe indépendamment du fait de savoir si elle reproduit l'espèce. Il se trouve que dans le patriarcat, il y a une idée fondamentale qui est la femme doit continuer à appartenir à l'homme puisqu'elle est la garantie de la reproduction de l'espèce. Donc, effectivement, dans le mouvement féministe, la question de l'individu existant comme être émancipé et faisant ses propres choix, c'est d'ailleurs, on va le voir dans les revendications du XXe siècle, toutes les luttes pour le droit à procréer quand on veut, à disposer de son corps, etc. Après, le fait d'avoir des enfants, pour moi, c'est pas un fait féminin, même si on porte les enfants. Il se trouve que généralement, on le fait à deux. Il se trouve que dans les deux, il faut au moins un homme, même si peut-être dans les années à venir, on pourra se passer des hommes et des femmes. Mais jusqu'à présent, donc ce phénomène et cette réflexion s'imposent aux hommes et aux femmes. Elle ne s'impose pas aux femmes. Enfin, troisième élément, Proudhon, qui est, je crois, une des expressions de l'anarchisme, et qu'il ne faut pas réduire l'anarchisme à ça, même si pour ma part, je reconnais que c'est un des éléments forts de mon analyse sur l'anarchisme, n'a pas simplement dit que la femme, comme elle procréait, ne pouvait pas penser. Il a écrit d'autres choses, où il explique que la femme, vous pourrez l'instruire comme vous voulez, ses expressions et son expression ne sera rien d'autre que le baliverne de l'ignorance. Il a expliqué et écrit ça, dire qu'il y a profondément, et c'est pas que l'anarchisme, quand je dis tous les courants politiques de gauche comme de droite sont traversés par cette question-là, il y a ici, comme hier, des gens qui pensent qu'il y a profondément une inégalité entre les hommes et les femmes, et que cette inégalité ne se fait pas au profit de la femme plus haut et de l'homme plus bas, mais au fait que c'est normal que dans l'espace public, il y ait des hommes, et qu'il est normal que dans l'espace privé, il y ait des femmes, et que ce soit leur espace. Que ce soit le code napoléonien, que ce soit des théories religieuses qui fixent dans le marbre un certain nombre de choses, il y a plein de mouvements qui ont théorisé cela. Je crois quand même qu'il faut les contester, et que l'un des enjeux aujourd'hui pour les femmes et pour les hommes dans la société de demain, c'est de partir déjà de la contestation de ces présupposés.
Les philosophes grecs, si jamais je m'abuse...
Il y a Sapho, j'ai oublié de dire quand même qu'il y avait Sapho qui...
Les philosophes grecs, ils disent bien que l'espace du politique, c'est les hommes, l'espace du travail, les esclaves.
Non.
Et l'économie, c'est des femmes, non ?
Non, non, non. Non, les courants sont différents, les explications sont différentes. D'abord... Pour aller vite, chez Platon, il y a l'idée qu'il y a deux catégories, mais comme il a souvent dans sa philosophie, expliquer les gens, enfin, les structures de société par catégorie. Par exemple, vous trouvez dans Platon d'autres choses où il dit il y a trois catégories d'hommes, les vivants, les morts et les marins. Donc là, il va vous dire il y a une différence entre les hommes et les femmes, c'est comme les chiffres pairs et les chiffres impairs, et il se trouve que les deux ne sont pas équivalents. Voilà, il essaye à chaque fois, c'est quand même des philosophes, d'expliquer, de justifier ça. Celui qui va le plus loin, pour moi, c'est Aristote, qui est quand même celui qui considère que la réussite pour un père dans sa semence, c'est de parvenir à faire que ça soit des hommes qui existent. Mais après, c'est la Grèce ne peut pas être réduite à ça. Par exemple, si on regarde Athènes et Sparte, à Sparte, on va avoir de l'éducation pour les hommes et les filles. Ce qui ne sera pas le cas, ou très peu à Athènes. Et les filles feront du sport à Sparte, jusqu'au moment où elles sont mariées. Alors qu'à Athènes, on n'aura jamais le droit pour les filles à faire du sport. Et puis après, il y aura Sappho, qui a été, au-delà de ce qu'on sait de la poétesse, l'une des premières à avoir mis en mots et créé les écoles. C'est-à-dire que, par contre, ce qui est sûr, c'est que la Grèce, dire dans ses philosophes les plus connus et ceux qu'on enseigne, c'est rarement Sappho qui enseignait, c'est rarement l'égalité, c'est souvent des philosophes dont on dit, regardez, c'est merveilleux, c'est la base de la démocratie, ce qui est vrai, dans la création de la citoyenneté, sans jamais forcément aller jusqu'au bout en disant, voilà ce qu'était le concept hier de la citoyenneté. Pour les Grecs, la citoyenneté s'était résumée aux hommes. Voilà. Il y a quelques hommes. Il n'y avait pas les esclaves, il n'y avait pas les étrangers.
L'équivalent des Philippes, hein, la République de Platon, c'est voilà. Il y a 200 000 électeurs pour 20 millions de
voilà. Candidats. Il n'y a pas les esclaves, il n'y a pas les femmes et il n'y a pas les étrangers. Ça fait quand même beaucoup. Et la production est détenue, ceux qui produisent ces esclaves et ceux qui ont le pouvoir de citoyenneté, alors là c'est sûr, c'est ceux qui ne font rien d'autre que réfléchir et penser.
Mais ce que j'avais lu, c'était que les femmes, ils leur donnent l'économie, les cosnomos, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'ils divisent en effet un peu d'hommes qui s'occupent du politique, les esclaves du travail. Et la mission des femmes, c'est l'économie. L'économie, dans l'esprit, les affaires, l'espace privé.
Oui, c'est la... C'est
domestique.
L'espace domestique.
Les affaires de...
Mais c'est pas économique. Hein, c'est les... Non, c'est...
C'est affaires domestiques. Mais d'ailleurs, paraît-il qu'économie, ça veut dire affaires domestiques. Cosnomos, les affaires de la maison.
Pour Achille Platon, c'est quand même le grand aspirateur de l'Église catholique. Hein. Ils sont très liés avec Saint Paul, donc on peut voir quand même Paul Platon, c'est vraiment un idéal de gauche. Hein.
Dixit en Freud.
Voilà.
Une dame, tu veux dire quelque chose?
Oui, non, elle avait pas.
C'est clair?
Merci. Je voulais savoir comment un homme pouvait prendre la responsabilité d'avoir des enfants et de travailler, d'avoir un métier, et d'essayer donc l'éducation de ses enfants à n'importe qui.
C'est pour vous, jeune homme.
C'est une bonne question.
Hein?
Non, mais comment. J'ai pas bien compris la question. Comment un homme. C'est la question inverse. C'est l'homme aussi. Comment il peut assumer la responsabilité et, non, mais c'est exactement ça. J'ai dit que Simone de Beauvoir n'a pas eu d'enfant, mais elle ne les a pas. Enfin, c'était pas elle toute seule, c'était elle et ça.
Elle n'a pas érigé une théorie.
Non,
le de Beauvoir n'a jamais fait une apologie de la non-procréation.
Hein. Non, c'est l'eau plutôt. Je suis désolée.
Exactement pareil pour un homme, une femme, c'est ce que je viens de dire. C'est pareil. Je veux dire que la responsabilité d'avoir un enfant, en principe,
il y a des...
Ça doit être pareil pour un homme et pour une femme.
Pour eux, vous.
Pour la femme.
Oui.
La responsabilité. La responsabilité. Pareil, non. Donc, comment une femme, vous vous posez la question, comment une femme peut prendre la responsabilité d'avoir un enfant et le laisser éduquer par quelqu'un d'autre?
Chaque personne individuellement ou en couple, j'ai presque envie de dire.
Par rapport à ce qu'on discutait, ce que vous présente ce soir Pascal sur le féminisme, les questions, tu la poses. Ok, ce qu'on essaie de voir en étudiant l'histoire, c'est quelles réponses les différentes sociétés ont donné à cette question. Voilà. Donc on peut dire qu'il y a une évolution depuis Platon et ses complices de l'Église catholique et du livre d'ailleurs, parce que c'est le plus grand machin machiste du monde, le livre. Donc il a couvert quand même la planète avec ce qu'il y a dedans. Hein, c'est quand même un des lieux de conception les plus hiérarchiques comme femme qu'on puisse imaginer. Le bouddhisme ne présente pas ces défauts-là. C'est quand même colossal.
Les autres religions monothéistes aussi. C'est-à-dire non, que je ne voudrais pas. Voilà.
Le monothéisme, c'est le livre. Parce que tout est long. Les juifs pour la Bible, les personnes pour la Bible, et les islamiques et les musulmans pour la Bible aussi. Donc, ils sont tous dans les religions du livre. Et bien, le livre, c'est le plus. Hiérarchie comme femme, comme production.
C'était encore pire que le code Napoléon. Hein.
c'est complet, c'est oui. La théorisation laïque de bon. Ces sociétés, elles ont donné cette réponse que non, mais... la femme doit rester à la maison et l'homme, il est sur l'espace public, à commercer, à faire
les guerres. Ce qui est sûr,
avec qu'on peut imaginer une société, ce ne sera pas comme ça. Mmh.
Donc, des sociétés agraires. Certainement, elles sont pas bien étudiées de ce point de vue-là, des travaux, par exemple, de Godelier sur les barouillas, où il y a des systèmes de domination des femmes aussi, dans ces sociétés-là, mais on peut s'interroger s'il n'y a pas un rapport beaucoup plus complémentaire, parce que dans les sociétés, je dirais, même pas paysannes, mais enfin des sociétés, enfin, de tout début paysan, c'est une nécessité absolue, cette complémentarité. Il y a l'idée de la fécondité de la terre, enfin, chez les cueilleurs, par exemple, ou chez les paysans, il y a cette idée-là qui est plus proche. C'est-à-dire que la question de la domination, je me demande si elle n'arrive pas avec la structuration en pouvoir, la montée du pouvoir, de l'État, etc. Parce que, c'est une question, hein, mais j'ai l'impression que dans des sociétés plus petites, l'idée de complémentarité, pas d'égalité, hein, mais de complémentarité est plus... Et plus, j'ose pas dire spontané, parce qu'il y a de la culture partout là-dedans.
Déjà deux choses par rapport au fait de faire ou pas un enfant. À ces périodes-là, il n'y a pas la contraception, donc la question ne se pose pas. La question qui se pose, non mais c'est d'ailleurs, oui, c'est même un des vrais soucis pour les femmes. Hein. La première cause de mortalité des femmes, c'est de mourir en couche. Émilie Duchâtelet meurt en couche à 43 ans. Marie, dont j'arriverai pas à prononcer le nom en anglais, meurt en couche et donne naissance à une Marie qui sera elle-même l'écrivain qui inventera Frankenstein. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc, c'est profondément pas une question. La question de savoir si on fait un enfant ou pas, c'est une question qui va arriver beaucoup plus tard avec des découvertes scientifiques, etc. Et par d'autres éléments qui sont le fait que les femmes veulent maîtriser leur corps, leur contraception, maîtriser le nombre d'enfants qu'elles font, alors qu'on était avant basé sur des sociétés où la garantie de pour les plus anciens, c'était d'avoir des enfants qui leur survivaient pour pouvoir, à partir du moment où on met en place des systèmes de solidarité qui dépassent le cadre national, le cadre familial, ben, on construit une autre société où ben, le rapport de la femme a aussi une autre place qu'une autre. Après, sur les sociétés, j'ai envie de dire, de chasseurs-cueilleurs, etc., dire qu'on était plus dans la complémentarité que dans... On a des traces, hein. On a des traces dans le sens où c'était pas forcément que de la complémentarité dans des petits groupes de surtout avant d'être installés dans l'agriculture qui chassaient. Il y a peu de moments où les femmes sont exclues du groupe de chasse. Hein. Elles le sont au moment où elles sont enceintes ou elles allaitent. Et par contre, on s'aperçoit que sur les lieux de chasse, elles participent elles-mêmes. Après, il y a d'autres éléments qui pourraient penser le contraire. Donc, pour l'instant, en tout cas, moi, je ne maîtrise pas ces sujets pour pouvoir répondre précisément. Ce que je sais, par contre, c'est que dans les sociétés, quelles que soient, on ne dirait pas que dans la société occidentale, la question du patriarcat a largement dominé l'organisation des sociétés et qu'elle ne s'est pas limitée ou pas développée conjointement au développement de l'État. Le patriarcat existe depuis bien avant. Ce n'est pas la Révolution qui crée ou le code Napoléon qui crée le patriarcat. Quoi. Voilà.
Et le rang administratif. C'est d'abord, pas seulement sur le code Napoléon. Napoléon a inventé l'administration étatique que se sont empressés de copier tous les autres États d'Europe. Hein. C'est clair, c'est ça l'invention. Alors, ce n'est pas Napoléon tout seul, hein. C'est l'ensemble des hommes, des hommes politiques français de l'époque napoléonienne ont vendu ça. On peut faire un chemin pour l'histoire
J'arrive pas à retrouver. Au moment des croisades.
Oui.
Attends, juste un truc, parce que je veux bien, mais moi j'arrive pas à retrouver, là, ça me tape dans la tête. Mais il y a un roi de France qui fait arrêter un jour en même temps, par le biais de ses préfets. Alors j'arrive pas à retrouver le nom, ça va me revenir. Des centaines de personnes partout en France. Alors je vais retrouver, là je vais, ouais, ça va me bloquer.
Ça s'est produit plusieurs fois, c'est à la Saint-Barthélemy.
Non, c'est pas la Saint-Barthélemy, c'est pas sur une question religieuse.
Il a arrêté tous les...
Voilà.
Les
Templiers. Voilà. Donc quand tu dis c'est la première fois qu'il y a un État, etc., arriver en un seul jour, au même moment, avoir organisé l'arrestation des Templiers partout en France, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire l'État soit né avec Napoléon. Il y a eu d'autres moments, pour moi, hein, où cette capacité de diffuser sur un territoire en entier un ordre a été donnée sous les rois. Après, c'était différent. Voilà.
Ce que j'ai tenté d'expliquer la dernière fois, c'est qu'il faut comprendre que l'invention de la Révolution et puis surtout de Napoléon, c'est une modification, mais c'est une transformation radicale de l'État. C'est-à-dire que sous l'aristocratie, les responsabilités étatiques était vendu par le roi à des bourgeois, et c'est les bourgeois, donc c'était des... C'est comme si vous aviez tous les énarques qui étaient payés par la République pour exercer les charges qu'ils font. D'ailleurs, il y en a un certain nombre...
Encore tu regardes bien.
Mais c'est seulement à l'état de trace. C'est pas la fonction publique qui est comme ça. À l'époque, le bourgeois achetait sa charge. Il achetait sa charge et il se payait sur la réalisation de sa charge. Donc voilà, c'est quand même. Et c'est comme ça que l'aristocratie a réussi à. Enfin, que le roi a réussi à les centraliser à Paris, etc. Et donc n'a pas construit une bourgeoisie, une aristocratie bourgeoise comme l'Angleterre. Ça, la révolution bourgeoise de l'aristocratie en France, elle a raté, puisque après la Fronde, ils n'ont pas réussi à ce que a fait le coup de Cromwell. Donc ils n'ont pas passé de compromis avec la bourgeoisie. Le roi a fait une centralisation, c'est Louis XIV, l'inventeur de la centralisation, avec Colbert, et Colbert, c'est un bourgeois qui est devenu... voilà, c'est... Bon, alors cette bourgeoisie-là qui avait acheté sa charge, elle est devenue... Elle a conçu l'administration de la France, mais sous une forme étatique. C'est-à-dire qu'après, c'est plus des bourgeois qui achetaient leur charge, c'est l'État qui embauchait des salariés, qui les payait, des fonctionnaires, pour faire le boulot. C'est radicalement différent comme structure d'État. Et d'ailleurs, ça s'est répandu extrêmement vite dans toute l'Europe, parce que ça avait une efficacité étatique, et ça a transformé la fonction de l'État. Il y avait quand même beaucoup moins d'États de la royauté qu'à partir de Napoléon. Et je dirais que c'est logique, et ça, ce phénomène s'est accéléré. Et quand on voit la place des femmes dans le 19e siècle, c'est exactement la même montée que tous les corps super opprimés de l'ensemble. Et on continue de voir les opprimés. Alors, vous les avez à la période, les différents, les nègres des colonies, on en avait parlé un peu l'autre jour, l'émancipation des esclaves, etc. Alors que les armées révolutionnaires, puis Napoléon, ont été vaincus à Tahiti, hein, quand même.
À Tahiti.
Il n'y a pas de hiérarchie de couleurs. Hein. Et sur la revendication, ce que tu disais, à propos des féministes, on a le droit d'aller à la guillotine, donc on a le droit d'aller monter à la tribune. De Martin Luther King, c'était la même chose. On a le droit de se faire trouver la peau au Vietnam. Quand on rentre, on a le droit d'être citoyen. Et les peuples colonisés français, quand ils se sont retrouvés la peau dans la guerre 45, en 47, ils ont dit, mais enfin, dès 45, ils ont dit, ben, voilà, on est citoyens. Puis les autres ont dit, non, on restait dans le rang, ils seraient colonisés. Il n'y a pas eu de compromis. Bon.
C'est pour ça qu'il y a la suite.
C'est pour changer le rapport. Ceux qui veulent que le rapport change à leur faveur, les femmes, ont il faut qu'elle change la conception sur la natalité.
Est-ce qu'on aura la suite de
Oui. Ah. Oui, au second semestre, on partira.
Est-ce que tu pourras nous lister les différents moments, les différents concepts, l'apparition des concepts. Tu sais, là, quand tu as dit... égalité, mixité pendant la révolution.
Liberté, solidarité.
Comment ça arrive, quoi ? Ça serait sympa, ça.
On va, d'accord, on va le faire, en sachant que sur la deuxième partie, on va s'apercevoir que le courant féministe, c'est d'abord des courants féministes. Hein, que derrière ce qu'on va appeler le féminisme, c'est comme le socialisme ou le communisme. C'est un mot générique qui va derrière montrer que des gens ne défendent pas la même conception. Voilà, donc on peut effectivement là-dedans retrouver ce qu'on a, j'ai envie de dire, commencé à voir sur la question de l'égalité, la question... qu'on va retrouver dans les débats sur émancipation, égalité, bataille républicaine, et de l'autre côté, les tenants d'autres courants qui vont penser que c'est par... en plus, le mot est à la mode grâce à Yazid... la discrimination positive, qu'on peut y arriver. Donc, on a sur des sujets, on va avoir des courants différents qui vont apparaître. Mais on le verra on ne pouvait pas faire en une soirée, ou sinon on aurait passé, j'ai envie de dire, très rapidement sur cette période qui est souvent ignorée, avec des personnages qui, vous le verrez, hein, quand vous faites les rayons histoire, hein, il y a pas que la classe ouvrière qui est ignorée, il y a, comme disait Flora Tristan, il y a la sous-classe ouvrière qui est la part des femmes dans l'histoire
pourrais dire un mot sur Tristan
aussi. Oui. Oui, je vous. Tout à fait, oui. Tout à fait. C'est une. Flora Tristan est née d'une union à Andilib et on n'est pas sûr parce que je pense que sa mère était mariée à un aristocrate péruvien qui était un ami de Simon Bolivar. Son père, par contre, meurt, elle a un an ou quatre ans, hein, si je me rappelle bien. Donc sa famille, elle, enfant, vit quand même dans la misère. Après, je ne sais pas si ce soir on aura le temps de retracer, mais c'est vrai que faire une soirée autour un peu de ce qu'elle a représenté, parce que c'est un personnage qu'on ne classe pas dans l'histoire du mouvement féministe, qu'on ne sait pas où classer, et qui mérite beaucoup d'attention, parce qu'elle a été, elle a su mettre en mots ce que d'autres ont vu beaucoup plus tard. C'est 10 ans avant Karl Marx qu'elle invente l'expression de classe ouvrière. C'est pas Marx ni Hegel qui l'ont inventé. Elle est, par certains aspects, très en lien avec les questions sociales, et puis par d'autres, elle est un peu tombée dans le mysticisme religieux qui font que personne ne veut se l'attribuer, pour aller vite. Hein? Oui, mais enfin bon, j'ai plus d'attachement pour Flora Tristan.
C'est un personnage extraordinaire, c'est elle qui est montée dans les tribunes, quoi, parce oui. qu'elle a inventé les tribunes des femmes, et en plus elle parlait pour les ouvriers aux ouvriers, c'est-à-dire qu'elle se posait, c'est la première leader ouvrière de... Oui, c'est la première leader ouvrière.
Oui, qui dit aux femmes, unissez-vous, ouvriers, voilà. Unissez-vous, rassemblez-vous, seuls vous n'êtes rien, ensemble, etc.
Des campagnes de meeting, elle toute seule, parce qu'elle était dans aucune mouvance particulière.
Bon, et bien on fera. Vous
avez des commandes, hein.
Oui. On parlera de Maria de Seine aussi.